Ça va bien tout le monde? Eh bien, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Oui, mon nom c'est Alexandre Farley, je suis un des pasteurs ici à l'église Le Sentier. Et je vous souhaite la bienvenue aussi à mon tour. Et j'aimerais en fait souhaiter une bienvenue spéciale et toute particulière à un monsieur qui est à notre église depuis quand même un certain temps, mais qui a été, vraiment... dans un état critique. M. Daniel Boulian est avec nous ce matin. Il est ici en arrière. Alors, M. Boulian, ça fait 3 semaines qu'il est dans le coma et vraiment, on pensait qu'il ne pouvait peut-être pas s'en sortir. Et le Seigneur a vraiment fait son œuvre, n'est-ce pas? Il est ici avec nous ce matin. Et oui, applaudissons encore une fois le Seigneur. Écoutez, c'est Libération 21. Et on est vraiment heureux de vous avoir avec nous, M. Boulian, et que le Seigneur puisse vous garder avec nous longtemps. Et vous savez, le Seigneur fait de grandes choses. Il est capable de faire des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même penser. Et ce matin, je vous le dis, le Seigneur veut encore une fois travailler dans notre vie, travailler comme il l'a fait hier soir au concert de louange de Acts 21 Musique. Vraiment, c'était un beau temps. Et cette semaine, on est encore une fois dans Libération 21. En fait, on est dans la deuxième semaine de Libération 21, dont le thème est « Être en mission avec Dieu ». Être en mission avec Dieu. Et on va voir si ici, oui, c'est ça. J'aimerais vous pointer vers justement notre site Internet, EgliseLeSentier.com/Libération21. Vous allez pouvoir trouver toute l'information pertinente au sujet de Libération 21 sur ce site Internet. Entre autres, vous allez trouver un guide de prière à chaque jour de Libération 21 pendant les 21 jours de jeûne et prière. Il y a une méditation qui est disponible, qui va apparaître sur le site Internet à chaque jour. Donc, on commence la deuxième semaine cette semaine. Aujourd'hui, en fait, commence le 24 heures de prière. Pendant une semaine, de dimanche aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, le 6 avril, samedi prochain, c'est bien le 6 avril, on va avoir, notre objectif, c'est que quelqu'un de l'Église Le Sentier puisse prier à chaque minute pendant 24 heures, pendant ces 7 jours-là. Donc, on a un cadran sur lequel, dans le foyer, sur lequel vous pouvez inscrire votre nom sur un bloc de prière de 15 minutes. On a séparé le 24 heures en 15 minutes et vous pouvez aller inscrire votre nom sur un de ces blocs de 15 minutes-là comme un engagement de prendre ce 15 minutes-là de la journée pour prier. Et si on est capable de remplir le cadran de 24 heures avec les noms d'une personne à chaque bloc de 15 minutes, pendant une semaine, quelqu'un de l'Église va être en train de prier pendant 24 heures, pendant 7 jours, n'est-ce pas? Donc, c'est encore le temps de le faire. Si vous n'avez pas inscrit votre nom, vous pouvez le faire. Je vous invite à le faire. Encore une fois, si vous n'avez pas récupéré votre bracelet, on a des bracelets comme ceux-ci, des bracelets gris et bleus. Ils sont vraiment à sa coche. 21 jours de jeûne et prière, Libération 21. Ils sont accrochés sur le mur, juste à votre droite, à ma gauche. Ils sont accrochés sur un tableau noir. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de visuel, d'avoir quelque chose de concret qui nous rappelle notre engagement de 21 jours de jeûne et prière pendant que ça dure. D'avoir un bracelet comme ça sur notre bras nous permet de se rappeler dans quoi on est engagé. Et même pour que vous puissiez vous engager, on vous demande, quand vous allez prendre un bracelet, d'aller inscrire votre nom avec une craie sur le tableau noir. Maintenant, si vous ne savez pas c'est quoi Libération 21, si vous êtes ici soit en visite ou peut-être vous êtes ici pour la première fois, sachez qu'on est déjà dans la deuxième semaine de Libération 21 et qu'il y a déjà eu 2 semaines de discours qui sont sur notre site Internet. Si vous voulez vous rattraper, si vous voulez vous mettre à jour, allez sur notre site Internet EgliseLeSentier.com/discours. Puis vous allez trouver les 2 discours précédents, celui d'aujourd'hui, dans la série de Libération 21. Justement, Normand, il y a 2 semaines, nous a introduit le thème de Libération 21 cette année. Vous l'avez sur les affiches qui sont ici en avant, c'est « Être en mission avec Dieu ». être en mission avec Dieu. Normand a démontré que toute personne qui devient disciple de Jésus est unie à Jésus et elle reçoit un nouveau nom, une nouvelle identité en Dieu. En effet, Jésus nous commande de baptiser ses disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité dans Matthieu chapitre 28. Normand nous en a parlé. Le disciple de Jésus reçoit donc une nouvelle identité qui correspond à chacune des personnes de la Trinité. Parce que Dieu est notre Père et on est baptisé au nom du Père, c'est quelque chose qui symbolise le fait que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on est en Jésus, on est enfant de Dieu. On forme donc la famille de Dieu, n'est-ce pas? Mais parce qu'on est aussi baptisé dans le nom du Fils, dans le nom de Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Bible nous enseigne que nous recevons une nouvelle identité en tant que serviteurs. Et troisièmement, parce que nous sommes baptisés au nom du Saint-Esprit, nous recevons aussi une identité comme missionnaire, parce que nous sommes envoyés par la puissance du Saint-Esprit comme un missionnaire partout dans le monde. Donc, en résumé, si tu es disciple de Jésus-Christ ce matin, tu fais partie d'une famille de serviteurs missionnaires. C'est ta nouvelle identité en Jésus. Tu fais partie d'une famille de serviteurs missionnaires. La semaine passée, Dominique a abordé déjà l'identité de famille, le fait qu'on est enfant de Dieu. Nous sommes donc une famille. Dominique en a parlé dans le discours de la semaine passée. Nous formons la famille de Dieu. La semaine prochaine, notre frère Éric Lantier va venir nous parler de notre identité de missionnaire envoyé par la puissance du Saint-Esprit. Mais cette semaine, je vais développer avec vous notre identité de serviteur. Et juste avant de continuer, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour prier, si vous voulez bien. Prions notre grand Dieu. Oui, Seigneur, merci pour l'opportunité vraiment que tu nous donnes de pouvoir être comme à tes pieds, de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir lire ta parole, de pouvoir la comprendre, afin de pouvoir la mettre en pratique dans notre vie. Seigneur, ce matin, par ton Saint-Esprit, que tu puisses prendre cette parole qui va être proclamée et venir l'appliquer à nos cœurs, que tu puisses venir la planter, Seigneur, dans notre cœur, comme une graine qu'on sème. Que tu puisses la faire grandir, Seigneur, et qu'elle puisse porter du fruit pour ta gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Viens nous aider, Seigneur, à comprendre. Viens nous aider à bien pouvoir la mettre en pratique. Et viens à mon aide, Seigneur, me secourir pour que je puisse bien proclamer, Seigneur, ta parole fidèlement. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Qui dit serviteur, dit maître, n'est-ce pas? Parce qu'un serviteur qui n'a pas de maître à servir ou de seigneur, il ne sert pas grand-chose, il ne sert pas quelqu'un, ce n'est pas vraiment un serviteur. Donc, l'idée d'être serviteur aujourd'hui au Québec peut rencontrer certains obstacles dans notre culture québécoise. En effet, la plupart des Québécois répondraient, on ne veut pas être le serviteur de personne, on ne veut pas être l'esclave de personne, parce que serviteur souvent peut être rapproché du mot esclave. Puis la plupart des Québécois aujourd'hui diraient, on n'a pas de maître nous autres, on est libre, on est dans la liberté. Il n'y a pas question de servir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et ça me fait penser aux Juifs du temps de Jésus, qui avaient le même genre de discours lorsqu'ils avaient ce débat avec Jésus dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. On nous rapporte justement que Jésus avait un débat avec des Juifs alors qu'il discutait avec eux dans le temple à Jérusalem. Et on lit justement au verset 30 de Jean chapitre 8, « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libre. » C'est là que Bob Dylan est sorti d'un buisson et s'est mis à chanter sa chanson « Gotta serve somebody ». Vous la connaissez peut-être en français, c'est « Tu es peut-être un ambassadeur en Angleterre ou en France, tu aimes peut-être jouer aux jeux ou tu aimes peut-être danser. Tu es peut-être le champion mondial des poids lourds. Tu es peut-être une personnalité connue avec un long collier de perles. Mais tu devras servir quelqu'un. » Oui, en effet. tu devras servir quelqu'un. Ce sera peut-être le diable, ou ce sera peut-être le Seigneur, mais tu devras servir quelqu'un. Non, inquiète-toi pas, Bob Dylan n'était pas là quand Jésus a eu cette discussion avec les Juifs, il y a presque 2000 ans. Mais quand même, Bob Dylan est très perspicace dans son analyse, n'est-ce pas? Très perspicace. Jésus l'avait dit bien avant lui. Le verset 34 de Jean chapitre 8 nous dit « en vérité, je vous le dis, je vous le dis, répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Donc, qu'on s'en rende compte ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on le croit ou non, si on est dans le monde de Dieu présentement, le monde que Dieu a créé, on est toujours et constamment, chaque être humain est toujours et constamment en train de servir quelqu'un ou quelque chose. Parce que nous avons été créés pour servir. Dis-le à ton voisin, tu as été créé pour servir. Ah oui, dis-le ce matin, là. Tu as été créé pour servir. C'est bon. C'est pas une si longue phrase, fait que je sais pas pourquoi que ça prend si tant de temps à le dire, là. Tu as été créé pour servir. Ce que nous sommes ne dépend pas de ce qu'on décide être. C'est un peu un mensonge qu'on croit aujourd'hui au Québec ou même, je dirais, en Occident ou dans la société moderne, que moi, je peux décider d'être ce que je veux, puis il n'y a personne qui va me dire qui je suis. Moi, je vais le dessiner, je vais m'auto-déterminer par moi-même. C'est vraiment une prétention moderne. Mais ce n'est pas vraiment la vérité, parce que Dieu, c'est à lui, c'est lui qui nous a créés à son image. Puis c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Qui est Dieu? Dieu est le Créateur. Dieu est celui qui règne. C'est le roi. Qu'a-t-il fait? Bien, si c'est le Créateur, il crée, n'est-ce pas? Si c'est le roi et celui qui règne, Dieu établit son royaume, il a établi son royaume sur tout l'univers. Maintenant, qui es-tu en regard de ces deux vérités-là, de qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'on va chercher notre identité. C'est là qu'on va essayer de découvrir qui nous sommes, nous. C'est en regardant à celui qui nous a créés. La Bible dit que Dieu nous a créés. Nous sommes des créatures créées à son image à lui. Nous sommes l'image de Dieu sur terre, étant des êtres humains créés à l'image de Dieu. Non seulement ça, dans Genèse chapitre 1, on se rappelle le mandat que Dieu donne à Adam et Ève de dominer sur les animaux et de dominer sur toute la terre. Donc, Dieu, en nous créant puis en nous plaçant dans le royaume, dans son royaume sur la terre, nous a créés comme étant des co-régents, des personnes qui sont comme des gouverneurs avec Dieu, qui sont comme des rois sous l'autorité de Dieu. Il nous a donné ce mandat-là, de dominer sur les animaux, sur les poissons, sur les bêtes dans la mer et sur la terre, sur les oiseaux dans le ciel. Et il nous a donné le mandat de dominer sur la terre entière. Donc, à la lumière de qui est Dieu, de ce qu'il est et de ce que toi tu es, que fais-tu? C'est ça la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je dois faire maintenant à la lumière de ces vérités? Eh bien, tu co-crée avec Dieu. Dieu nous a donné le mandat de continuer cette œuvre de création. On ne crée pas exactement comme Dieu a créé, parce que Dieu a été capable de créer à partir de rien. Nous, on prend des choses qui existent déjà pour créer. Néanmoins, Dieu nous donne ce mandat-là. On a été créé à son image et il nous demande de continuer comme lui, de créer les choses autour de nous. Dieu nous a donné aussi le travail de régner, comme j'ai dit, c'est ce qu'on fait. Nous régnons sous l'autorité de Dieu. Et en faisant ça, on glorifie notre Dieu. Genèse chapitre 2, on voit que Dieu ne nous donne pas seulement le mandat de dominer sur la terre, mais il nous donne aussi le travail, si on veut, ou le mandat de cultiver le jardin somptueux dans lequel il nous a placés. On lit dans Genèse 2 que Dieu a pris Adam et Ève, les a placés dans un jardin somptueux, Et ça nous dit « pour qu'il le cultive et le garde ». Donc, c'est notre mandat, c'est ce qu'on fait. On crée, on cultive, on garde la création de Dieu, on garde l'univers et le royaume de Dieu dans lesquels il nous a placés pour sa plus grande gloire. Donc, en résumé, voilà ce que Dieu a voulu pour nous lorsqu'il nous a créés et placés dans le monde. Il a voulu qu'on le serve dans son royaume et pour sa plus grande gloire. Mais dans le plan de Dieu, il n'était pas question qu'on serve Dieu comme des esclaves qui sont contraints à servir contre leur gré et d'une manière pénible et souffrante. Non, ça, ce n'était pas le mandat de Dieu pour nous. Dieu nous a créés pour qu'on puisse servir librement. Oui, tu as été créé pour servir, mais tu as été créé pour servir en toute liberté. Sans que personne te force à faire quoi que ce soit, sans que ce soit contre ta volonté ou contre ton gré, mais en pleine liberté. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi et moi. Donc, non seulement tu as été créé pour servir, chaque être humain va chercher à servir quelqu'un ou quelque chose parce que c'est la raison pour laquelle il a été créé. Mais Dieu nous a créés pour qu'on serve librement. Maintenant, il ne faut pas être un génie pour se rendre compte que le règne de Dieu sur la terre n'est pas du tout selon ce que Dieu avait voulu à l'origine, n'est-ce pas? Adam et Ève, en effet, ont été trompés par Satan. Vous connaissez certainement l'histoire de la chute. Ils ont choisi de rejeter Dieu comme roi. Adam et Ève ont choisi de se soumettre à la parole de Satan au lieu de se soumettre à la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous raconte que Satan est devenu le prince de ce monde déchu et brisé. Et Adam et Ève, à partir de ce moment-là, sont devenus esclaves. La Bible t'a asservi. Tu as été créé pour servir librement. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, le péché a fini par asservir Adam et Ève et asservir tous ceux qui sont issus d'Adam et Ève. En effet, depuis ce temps-là, l'humanité entière hérite de la nature pécheresse. Tous ceux qui vont suivre et qui sont les descendants d'Adam et Ève, donc tous les êtres humains, héritent de la nature pécheresse. Et au lieu de vivre comme des serviteurs libres, ils viennent au monde dans cette réalité qu'on appelle l'esclavage au péché, dont Jésus a parlé dans Jean chapitre 8. C'est l'idée que tout être humain est incapable de résister au péché, incapable de dire non au péché, de ne pas obéir au péché. Je vous donne un exemple. Malgré tous mes efforts humains, moi, Alex Farley, je ne suis pas capable, par mes propres forces, de ne pas mériter auprès de mes enfants quand ils font quelque chose de mal ou quand ils font juste quelque chose que je n'ai pas le goût qu'ils fassent. Des fois, ce n'est pas quelque chose qu'ils font de mal, c'est juste quelque chose que je n'ai pas le goût qu'ils fassent parce que je veux le confort ou je veux bâtir mon royaume ou j'ai mon idée de comment ça devrait être la vie. Puis eux, ils vont à l'encontre de ça. Ecclésiaste chapitre 7, 9, « Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le cœur des insensés. » Jacques 1, 19 et 20, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Écoute, je les connais les versets par cœur. Je suis capable de les citer avec la référence biblique puis tout. Tu comprends? Mais laissé à moi-même, je suis incapable de ne pas me mettre en colère envers mes enfants. Quand Jésus dit dans Jean 8, 34, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché », c'est de ça que ça parle, c'est de ça que Jésus parle. Puis parce que tous ont péché, Romains 3, 23, un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », tous donc, on est asservis au péché. Donc oui, tu as été créé pour servir librement, mais en fin de compte, sous le faux règne, de Satan, qui se prend pour le prince du monde, c'est le péché, finalement, qui t'a asservi. Puis c'est pas tout, parce que C'est pas comme si le péché t'a asservi, puis t'es demeuré une simple pauvre victime innocente du péché qui n'y peut rien. Non, le péché, c'est tellement laid, c'est tellement mauvais, c'est tellement mal, c'est tellement horrible que ce que le péché fait, c'est qu'il prend des victimes comme l'être humain, puis il le rend transgresseur lui aussi. Le péché t'amène à te servir et le péché t'amène à asservir. C'est une phrase que Pasteur Norman nous a déjà dit dans une série de 1 Corinthiens. Le péché nous asservit, c'est vrai, mais le péché, ensuite de ça, nous pousse à se servir des autres et le péché nous pousse à s'asservir les uns les autres. Quand on regarde le monde et notre propre vie, si on est honnête, on voit à quel point le règne de Satan et le règne du péché est pourri et rend le monde et les humains brisés et divisés. Exemple, la jalousie dans nos relations, l'envie, l'égoïsme, le fait de vouloir constamment se mettre au centre d'un projet ou au centre de l'attention ou au centre d'une relation, l'orgueil, vouloir se mettre au-dessus des autres, relationnellement parlant même. La haine, ça peut aller jusqu'au désespoir. Tour à tour, les autres se servent de nous. Et nous, on se sert des autres pour obtenir le statut, pour obtenir le succès, pour obtenir l'approbation. Tour à tour, on est asservi par les autres. On devient leur esclave. Mais nous aussi, on va trouver le moyen d'asservir les autres par la manipulation ou par le contrôle. C'est l'œuvre du péché. Ça laisse nos familles brisées, des enfants orphelins. Ça laisse des veuves sans famille et sans ressources. Ça laisse des riches qui s'enrichissent alors que des pauvres s'appauvrissent. Ça fait des tueries comme on a vu récemment en Nouvelle-Zélande. Ça fait des viols. Ça fait une culture de viol et d'agression. Pensez au mouvement « moi aussi », hashtag « moi aussi ». Des abus sexuels, des injustices économiques et sociales, des inégalités incroyables dans notre monde. Ça laisse nos familles brisées, des enfants orphelins, toutes ces choses-là. Puis c'est pas juste des choses qui se passent dans d'autres pays, qui se passent dans d'autres régions, dans d'autres églises ou dans d'autres familles que les nôtres. Non, c'est ici, dans nos familles. C'est ici, dans notre église. Des conjoints qui se font du mal, puis en réponse au mal qu'ils subissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du mal à celui qui leur a fait du mal. Ils répondent au mal par le mal. Ça fait des couples qui refusent de se pardonner ou qui refusent de s'aimer carrément. Ils ne ressentent plus d'amour pour l'autre et ils pensent qu'à cause de ça, ils devraient juste s'en aller parce que je ne ressens plus cet amour. Ça fait des enfants qui rejettent l'autorité de leurs parents. On le voit même dans nos familles, des parents qui veulent contrôler leurs enfants puis qui souvent provoquent la rébellion de leurs enfants en agissant ainsi. Oui, je sais que les situations sont toutes différentes et complexes. Je sais que tu pourrais passer même beaucoup de temps peut-être à expliquer et à justifier ton comportement et même ta situation si tu t'es vu dans une de ces situations-là. Mais ça ne change pas le fait que le péché fait des ravages dans notre monde et dans nos vies. Si on laisse le péché agir, si on lui donne libre cours, il nous amène à se servir des autres et il nous amène à s'asservir les uns les autres. Il nous amène à la destruction. Mais la bonne nouvelle, l'évangile, le mot évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu n'a pas laissé le péché tout détruire. Il n'a pas laissé le péché nous détruire. Pardon, il n'a pas laissé le péché nous détruire. Non, Dieu nous aime, frères et sœurs. Et parce qu'il nous aime, il est intervenu en Jésus pour libérer les captifs que nous sommes. Il est venu en Jésus restaurer son royaume. Il est venu en Jésus nous restaurer nous-mêmes à la liberté qu'il a toujours voulu pour nous quand il nous a créés. Jésus dit aux Juifs dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » Amen. La chose surprenante à propos de Jésus, c'est qu'il est le roi des rois, le roi de tout l'univers. Tout lui appartient. Normand, il y a deux semaines, a cité Matthieu 28, où Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Mais lorsque Jésus est venu pour nous libérer, il n'a pas pris une posture de roi conquérant, n'est-ce pas? Il a plutôt pris une posture de serviteur. Jésus est notre roi serviteur. Et quand on commence à lire les évangiles, puis on commence à en savoir un petit peu plus à propos de Jésus, on se rend compte que Jésus, à plus d'une reprise, a répété qu'il n'est pas venu pour se servir, mais qu'il est venu pour te servir. Jésus est venu pour te servir. C'est lui qui a affirmé ça de sa propre bouche. Dans Matthieu 20, 28, il dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme, en parlant à ses disciples, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Qui Jésus est venu servir? Évidemment, il servait son Père, qui est dans les cieux, mais Jésus, ici, le contexte, c'est qu'il est venu te servir. Il est venu servir tous ceux et celles pour qui il a donné sa vie en rançon. Jésus est venu te servir. Jésus a même démontré de manière très concrète à ses disciples qu'aimer quelqu'un, le fait d'aimer quelqu'un, signifie servir cette personne. Tu veux savoir comment aimer quelqu'un? Jésus dit, commence à le servir. Justement, on va lire un passage dans l'Évangile de Jean, quelques versets, les versets 1 à 17. On ne lira pas tout le passage au complet. Mais où c'est tellement surprenant de voir à quel point Jésus a voulu nous enseigner ce que ça veut dire d'aimer. Que le fait d'aimer signifie de servir quelqu'un. Au verset 1, on lit dans Jean chapitre 13, « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, c'est quelques heures avant sa crucifixion, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, on parle de ses disciples là, ici, puis par extension, chacun d'entre nous. Ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » Jésus a choisi de les aimer jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Ce que Jésus est en train de faire là, c'était ce qu'un esclave nouveau-testamentaire du temps du Nouveau Testament faisait, se dévêtir complètement, prendre un linge et laver les pieds sales des gens qui marchaient en sandales sur les chemins de Jérusalem et sur les chemins de la Judée. Il arrivait dans une maison avec les pieds tout crottés, tout sales. Et on avait des esclaves dans les maisons à ce moment-là pour qu'ils puissent venir et laver leurs pieds. Et voici que c'est Jésus qui se dévêtit et qui se met à laver les pieds de ses disciples. Au verset 12, on saute au verset 12. « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le maître et seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Incroyable, n'est-ce pas? Jésus est en train de donner une leçon d'objet à ses disciples. Une leçon d'objet dans ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un. Ça veut dire de le servir, même si tu es en position d'autorité, que tu sois un employé, un père ou une mère, que tu sois un chef de famille, que tu sois un responsable dans un ministère à l'Église, que tu aies un rôle de responsabilité, peu importe où tu te trouves, Jésus nous enseigne par son exemple à lui qu'est-ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un. Ça veut dire de le servir. Et Jésus dit, vous n'avez pas d'excuse. Si moi, le Maître et le Seigneur, je l'ai fait, vous n'avez pas d'excuse de ne pas le faire parce que le maître, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Fait que si le seigneur et le maître l'ont fait, on n'a pas d'excuse pour ne pas le faire en disant, ben moi, quand même, je suis en position d'autorité, je ne suis pas pour aller puis me salir les mains. Jésus est le roi serviteur qui nous a aimés d'une manière ultime, à l'extrême, le texte dit, n'est-ce pas? Alors qu'il est devenu une victime expiatoire pour nos péchés. Et ça vaut la peine de lire ensemble encore un autre texte de la Bible, encore écrit par l'apôtre Jean, mais c'est une lettre, une épître dans le Nouveau Testament vers la fin, là, proche de l'Apocalypse, dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11. On lit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Une victime expiatoire pour nos péchés, c'est ce que Jésus est devenu. Le passage finit en disant, « Si Jésus nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Comment refuser de le faire? Tu vois, ce que Dieu a fait en toi, il veut le faire à travers toi. Ce que Dieu a fait en toi, il veut le faire à travers toi. C'est là que ça connecte avec le thème de Libération 21, être en mission avec Dieu, être un serviteur. Jésus t'a servi et maintenant, il veut que tu puisses servir les autres en suivant son exemple. Mais par nous-mêmes, on est encore incapable d'aimer comme Jésus nous a aimés. On est incapable de servir librement les autres par nous-mêmes comme Jésus nous a servis. Ça prend un miracle de Dieu. Ça prend que Dieu intervienne puissamment dans notre vie. Tu vois, le verset de 1 Jean, chapitre 4, verset 7, nous donne la clé de comment y arriver. Ça dit, « L'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Sans être née de Dieu et connaître Dieu, c'est impossible. Pour aimer et pour servir comme Jésus nous a aimés et nous a servis, ça prend la nouvelle naissance. Ça prend de mettre ta confiance dans cette victime expiatoire pour tes péchés. Ça prend la foi que c'est pour tes péchés, à toi, que Jésus est mort comme victime expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, victime expiatoire? Dans l'Ancien Testament, ça connecte à une réalité de l'Ancien Testament où quand les hommes et les femmes péchaient dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré un système de sacrifice par lequel ils pouvaient expier leurs péchés, annuler leurs péchés, effacer complètement les péchés qu'ils avaient commis. Donc, si tu péchais, si tu commettais des péchés, ou si par omission tu péchais aussi, tu pouvais venir au temple avec un agneau innocent, sans défaut, et tu mettais ta main sur cet agneau-là, et alors que tu avais la main posée sur cet agneau-là, on égorgeait cet agneau-là. Le sang coulait partout, puis on prenait le sang, puis on aspergeait l'autel qui était dans le temple de l'Ancien Testament avec le sang de cet agneau innocent. Et Dieu avait permis que cet agneau puisse être une victime à ta place. La Bible avait dit, si... c'est à cause, tu vas mourir à cause de ton péché. La conséquence du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, 23, on lit, le salaire du péché, c'est la mort. Et chacun devait mourir pour ses propres péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, avait permis au peuple de ne pas subir la punition de leurs péchés. Ils pouvaient mettre leurs mains sur cet agneau et c'était comme un symbole visuel que tes péchés étaient transférés à cet agneau innocent. L'agneau n'a rien fait, mais l'agneau subissait la punition de tes propres péchés. C'est toi qui devais mourir pour tes propres péchés. Mais voilà que Dieu permettait que l'agneau meure à ta place pour expier tes péchés, pour les effacer, pour les annuler, pour qu'ils n'existent plus. Mais c'était constamment à refaire dans l'Ancien Testament. À chaque année, un sacrifice comme celui-là devait être mis pour faire l'expiation des péchés du peuple. Mais voilà comment Dieu nous a aimés. Il a donné son fils, son propre fils, comme victime expiatoire, comme victime qui annule nos péchés. Mais ça prend la foi que c'est pour tes péchés à toi que Jésus est mort comme victime expiatoire. Donc, oui, tu as été créé pour servir Dieu librement dans son royaume. C'est le plan de Dieu pour toi. Oui, le péché t'a plutôt asservi et il t'a poussé à te servir des autres et à s'asservir les uns les autres. Oui, par contre, Jésus est venu pour te servir comme roi serviteur. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et ça prend la foi pour que tes péchés puissent être expiés par Jésus. Ça prend la foi que Jésus est mort pour tes péchés comme victime expiatoire. Et quand ça arrive, tu deviens disciple de Jésus, tu nais de nouveau, tu es né de Dieu, comme 1 Jean 4 nous le dit, et tu es recréé pour servir librement. Chose qui était impossible de faire. Par nos propres forces, on n'est pas capable d'y arriver. Mais en Jésus, tu es recréé pour servir le roi et pour servir les autres librement. Être en mission avec Dieu, c'est être une famille. Mais c'est aussi être serviteur. C'est aussi être serviteur. J'espère que vous en êtes convaincus. Mais à ce point-ci, j'ai besoin d'attirer ton attention sur un piège potentiel, très sournois, qui peut facilement te faire retomber dans l'esclavage. Dans l'esclavage? Mais non, si je t'en Jésus, Jésus m'a justement libéré, c'est le Fils qui va vous affranchir, Jésus m'a libéré pour que je puisse servir justement en toute liberté. Comment est-ce que je pourrais retourner dans l'esclavage maintenant que je suis en Christ, en Jésus-Christ? Je ne parle pas de l'esclavage au péché proprement dit, mais plutôt l'esclavage à ce que Dieu te demande. Oui, c'est possible de retourner dans une sorte d'esclavage envers ce que Dieu te demande maintenant que tu es en Jésus. Il y a 2 semaines, Normand nous a introduit à l'idée qu'être en mission n'est pas premièrement quelque chose à faire, mais plutôt quelque chose à être. Le thème de Libération 21 cette année, ce n'est pas « faire la mission avec Dieu », mais c'est plutôt « être en mission avec Dieu ». Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas comme par hasard de même que ça arrive. Non, ça a été pensé comme ça. Pourquoi ça a été pensé? Ça a été pensé à cause de ce piège très sournois qui peut nous attendre dans le détour. Tu vois, être serviteur est une question de cœur, pas une question d'activité ou d'activisme ou de faire des choses. C'est une question de cœur. Si ce n'est pas cette bonne nouvelle, l'évangile du libre service en Jésus qui te pousse à être serviteur, tu vas vite te brûler, tu vas vite être épuisé de penser, encore de voir et toujours servir pour satisfaire la justice de Dieu et pour être acceptable aux yeux de Dieu. Crois-moi, même quand tu es racheté, né de nouveau, c'est possible d'encore une fois tomber dans ce piège-là. Moi, j'ai tombé dans ce piège-là et je tombe parfois encore dans ce piège. Tu vas tomber à nouveau dans un genre d'asservissement du service. Mais tout ton service et toute ton absence de service ne peut absolument rien faire pour que Dieu t'aime davantage. Ou ne peut absolument rien faire pour que Dieu t'aime moins qu'il t'aime déjà. C'est le fait d'expérimenter l'amour non mérité de Jésus qui seul a le pouvoir de te libérer, même de cet esclavage-là qui est très sournois. expérimenter l'amour non mérité de Dieu, qui peut te libérer de tout esclavage, même quand cet esclavage a les contours de la religion et des bonnes actions. C'est seulement expérimenter la grâce de Jésus, pas juste connaître la grâce de Jésus, mais expérimenter la grâce de Jésus dans ta vie, qui peut te donner le repos de servir comme si tu étais encore un esclave. Parce que c'est possible de servir comme si tu étais encore un esclave, même si tu as été libéré par Jésus pour servir librement. Mais c'est seulement dans la grâce et dans l'amour de Jésus, dans l'expérimentation de cette grâce et de cet amour, que tu peux être enfin dans le repos de ce service constant de vouloir plaire à Dieu. Tu plais déjà à Dieu. Jésus t'a libéré. En Jésus, tu es libre. Tu n'es plus esclave. Libre de servir, libre de survivre, de poursuivre plein de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Mais oui, ce n'est pas un argument pour ne plus rien faire que je suis en train de dire. Au contraire, c'est un argument pour faire en fonction de ce que tu es. Tu es serviteur. Et ce que tu fais doit découler de ce que tu es. Et pas juste focusser sur le faire, le faire, le faire. J'aurais le goût de te dire, laisse faire le faire. Fais juste être serviteur, puis le reste va suivre. Amen. Regarde autour de toi. Ton entourage ressemble-t-il au royaume de Jésus? Ta famille, ton quartier ou ton milieu de travail, est-ce que ça ressemble au royaume de Jésus? Les occasions sont nombreuses autour de nous si on commence à avoir les yeux pour voir ces occasions de servir, d'être un serviteur. Les vies brisées sont-elles en train d'être réparées autour de toi? Sinon, tu as l'occasion de travailler à ça, d'être un serviteur pour Jésus dans ces vies brisées. Les gens affamés sont-ils en train d'être nourris autour de toi? Que ce soit littéralement affamés ou affamés dans leur âme, tu as l'occasion d'aller leur apporter la bonne nouvelle, d'être un serviteur de Jésus pour eux. Les relations sont-elles en train d'être restaurées ou plutôt sont-elles déchirées? Tu as l'occasion d'aller pour travailler à cette restauration. Les injustices sont-elles en train d'être renversées? Tu as l'occasion d'aller pour faire une différence. Les gens vulnérables sont-ils en train d'être protégés? S'il y a des gens qui sont en danger autour de toi, tu as l'occasion d'intervenir et d'être ce genre de serviteur qui vient à la défense des plus faibles et des plus vulnérables. Sois le serviteur que Jésus t'appelle à être, là où il t'a placé. Puis fais-lui confiance pour le servir en toute liberté, n'est-ce pas? Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette vérité, pour cette parole puissante que tu nous donnes ce matin. Merci de nous rappeler ce que nous sommes en toi. Nous sommes des serviteurs libres, des serviteurs qui ont la capacité maintenant en toi, Jésus, de pouvoir te servir librement. Oui, fais cette œuvre en nous. Fais cette différence. Par ton esprit, Seigneur, conduis-nous. Nous avons hâte la semaine prochaine, Seigneur, de voir comment, par la puissance de ton esprit, nous pouvons être ces serviteurs missionnaires. Aide-nous à vivre, Seigneur, comme cette famille de serviteurs missionnaires. C'est seulement par toi, Jésus, qu'on peut y arriver. À toi la gloire. Amen.